C'était dit rendez-vous dans 10 ans.
Je suis Buzz.
Buzz.
Vous dites que vous avez fabriqué une machine à voyager dans le temps ?
Rétro Buzz !
Rétro Buzz, la tendance avec 10 ans de retard.
10 ans ! Mais c'est énorme !
Buzz White. Buzz White.
Buzzwide. Présenté par Pierre Adrien,
Adriana,
FX,
Enzo
et Roman.
Buzzwide.
Chaque mois, retour sur les buzz d'il y a 10 ans.
Maintenant, il est bloqué dans le passé.
Que sont-ils devenus ?
Existent-ils toujours ?
Réponse tout de suite dans Rétrobuzz.
Merci, oui. Merci à tous pour cet accueil mémorable.
Et merci beaucoup.
Merci.
Merci. Et salut à tous et toutes et bienvenue dans Rétro Buzz, l'émission qui suit la tendance avec 10 ans de retard. On se retrouve comme toujours sur Prune tous les troisièmes jeudis de chaque mois de 13h à 14h. Salut à vous l'équipe de Rétrobuzziste, comment ça va ?
Ça va, t'es pas trop saoulé ?
Mais j'ai une bonne voix, non ?
T'as une petite voix.
Ouais, j'ai une bonne voix. Bah écoutez, voilà. Vous avez jamais fait la fête, vous, dans votre vie ?
Non.
Jamais ? Non ?
Jamais.
Eh ben, tu m'étonnes. Bah, essayez un jour, vous verrez, ça met du baume au cœur. Bon, avant de commencer, je rappelle à nos auditeurs et nos auditrices le concept de l'émission. Chaque mois, on revient sur des buzz, des infos, des news, appelez ça comme vous voulez. Bref, on revient sur ce qui faisait l'actu il y a 10 ans. Et puisque là, on est en avril 2022, on va mettre un coup d'œil dans le rétro du côté d'avril 2012. C'est clair, non ?
Ouais,
oui,
super clair.
Oui, 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 oui. J'ai pas entendu Adriana.
Oui !
Oui ! Alors, bon. Alors, et une petite virgule. C'est la virgule rétro buzz. On a oublié le liner dans le truc de l'internet. Donc c'est bon, on peut le faire à la bouche, non ?
Bah, ça marche de l'internet.
Je fais le premier, vous ferez les autres, c'est comme ça. Donc c'est parti. Avant tout, il faut dire qu'on a perdu un rétro-buzziste. Et oui, paix à son âme pour ce mois-ci. Enzo est absent pour cette émission.
Oh. Oh. Il va revenir quand même.
Ben, il va revenir.
Bon,
on ne sait pas. On va voir. On va peut-être renouveler son CDD. On ne sait pas. Mais bon, c'est pas grave parce que Roman est là.
Ouais.
On a remplacé Enzo par Roman qui était déjà là. Je ne comprends pas cette relance, mais moi, ça me fait plaisir quand même. Alors, Roman, qu'est-ce que tu vas nous raconter ce mois-ci ?
Je vais vous refaire toujours un blind test. Écoutez, on va voir si vous montez en compétences un petit peu tous les mois, c'est la surprise.
Qui c'est qui s'est entraîné au blind test ?
Personne. Pas PA, pas.
PA, si tu rigoles, il faut rigoler dans le micro, hein, parce que on est à la radio.
Mais moi, je suis très bon au blind test, en vrai. Je vous le cache depuis le début, donc on va voir ce qu'on va voir.
En fait, plus ça va et plus je fais des trucs easy. Donc là, quand même, si vous ne trouvez
pour
pas...
Moi.
Peut-être.
Tu peux nous donner les titres directement ?
Non.
Non ?
Non, non, mais quand même, ça ne va pas être compliqué.
Bon, d'accord, merci, Roman. Adriana, ta chronique nous emmène où, cette fois ?
En Russie.
Russie, ah bah tiens, bah, la bonne nouvelle. Bon, bah, c'est bien, on est bien. On est en avril 2022 et on se marre. Allez, PA, qu'est-ce que tu vas faire, toi ?
Bah, moi, j'ai toujours des bonnes histoires pour me mettre la patate. Donc...
la patate ? Avec combien de A ?
Avec 3 A. Et du coup, je vais parler grève de la faim.
Oh,
et ça, c'est cool.
Ça met vraiment la patate, quoi, littéralement.
Ah bah oui, la patate. Et puis ça nourrit bien.
La patate, grève de la faim.
Bon, et puis, moi, je vous ai présenté. Moi, c'est FX. Hein. Moi, je n'ai pas dit, mais moi, c'est FX. Parce qu'avec la voix, on pourrait ne pas me reconnaître.
Oui.
Hein,
oui.
J'ai plus la voix
mais
de Jean-Paul Rouve.
Ouais, presque.
Mais t'as tout
Jean-Paul
le look.
Rouve, Jean-Paul Rouve qui a fait la fête.
Bon, moi, je vous ai préparé le même petit jeu que la dernière fois, avec des unes de la presse francophone d'avril 2012.
Rétro Flash, c'est l'heure du Rétro Flash.
Ah bah c'est des actus avec 10 ans de retard alors, ah bah d'accord.
Eh bah oui, alors il est toujours, il est toujours bien ce petit jingle. Oui. C'est parti pour le même concept que le mois dernier, qui s'en rappelle et qui peut l'expliquer ? Voilà, ça c'est une interrogation surprise.
Roman.
Oh !
J'en suis capable.
Ouais.
Si je devais expliquer simplement, tu vas nous donner des débuts de titres d'articles qui sont sortis du coup il y a 10 ans. Dans des médias français. Et il va falloir qu'on trouve la suite de l'article. Et en point bonus, si on trouve le média pour lequel ce titre est sorti.
La suite du titre suffira, je pense.
Ouais, la fin du titre. Alors moi,
l'article.
Je suis dans
non, mais
un
tu
dilemme.
M'as demandé de répondre. Donc
C'était pour te compléter.
Oui.
I complete you.
Alors c'est bien parce que toi, tu complètes sur une info qui était déjà dite. Et moi, j'ai un dilemme. C'était est-ce que je lis quand même mon texte qui va tout simplement reformuler ce que tu viens de dire ? Et donc, j'aurais pas eu besoin de te poser
tu
la question.
Tu penses que c'est clair ?
Non, je pense que
pas
c'est
besoin,
clair.
Ouais.
Non, mais on va directement partir.
Allez.
Donc, il me faut la fin du titre et le nom du journal. Et c'est parti. Donc le premier titre, c'est La gauche
est morte.
Non, la gauche au pouvoir, parce que c'était il y a 10 ans.
Oh, bien joué.
Ah,
ah oui, c'est vrai.
Et ben non. Donc présidentielle au
non. La gauche non. Est là.
La gauche est là, non plus.
Absente.
Non. Alors, ça sonne comme un slogan.
Au second tour.
Bah oui.
Ouais, mais...
Ah, mais c'est un média.
Non, c'est un indice que je dis. C'est pas, c'est pas bah oui, toi, ta phrase. Oui, ta phrase sonne comme un slogan, mais un indice. Adriana ?
Mon cerveau frise, je sais pas.
Ah oui. La gauche ?
La gauche.
Un seul mot. La
encore.
Gauche. La gauche encore ? Non.
Ah, toujours. La gauche toujours.
La gauche toujours, non plus.
La gauche.
La gauche.
Je sais pas.
Mais la gauche
coup,
forte.
Ah,
c'est ça, la gauche forte. Zéro point, zéro point. On d'accord. commence très fort cette émission. La gauche forte.
Okay, c'est donc Libé.
Et c'est Libération. Un point.
Oh.
Bla, bla.
Je croyais qu'on ne devait pas dire. Pour
ah
savoir.
Bon ah si, bah si, il faut dire. Bah, bien sûr. Dire. Donc on commence avec cette une assez mythique de Libération. Le premier tour des élections présidentielles était le 22 avril 2012. Et est-ce que vous savez à quoi fait référence ce titre, La gauche forte ? C'est quoi, le sur quoi ça s'appuie ?
Bah, sur le résultat des premiers tours des élections présidentielles.
Et non, parce que là, on est le 21 avril, mais le premier tour était le 22 avril.
D'accord.
Et ça s'appuie sur quoi ?
Parce qu'ils se sont tous les candidats de gauche se sont réunis derrière Hollande.
Non.
Ouais, mais ça, oui, non.
La gauche réunie, non.
Non, mais à quoi ça fait référence ? Alors, c'est un jeu de mots avec quelque chose.
Ah ouais, ok, la France forte, il y a un truc fort. Il n'y a pas un slogan en face de Sarko, oui. Genre machin
la
fort.
France forte.
La France forte de Sarko, effectivement. Ça fait référence au slogan de Nicolas Sarkozy qui était la France forte à l'époque.
Les slogans de Nicolas Sarkozy.
Ah bah oui, je vois ça.
Il connaît bien, hein, bravo. Bravo. Donc Libération montre par ce titre son attachement à la gauche en reprenant même l'affiche de campagne de Sarko. Mais tout ce qu'ils font en fait, c'est qu'ils enlèvent Sarko. Donc en fait, c'était Sarkozy devant une mer et là, il y a juste la mer. Ils enlèvent Sarko, ils mettent la gauche.
Ah, je me souviens de cette
si,
une.
Si, ouais.
Oui,
très bien.
Oui.
Et oui, on s'en souvient.
Et une marquante de Libé.
Et voilà. Donc, alors j'en suis où de mon texte ? En enlevant Sarko et en laissant juste le décor d'un horizon serein sur une mer paisible. Et à l'époque, la gauche, le PS, était plutôt fort puisque Hollande était arrivé en tête du premier tour avec 28,6% des voix contre 27,2% pour Sarkozy. Hein, c'était une époque à l'époque. Hein.
Ah bah oui.
Ah, bon.
Donc, tant de moins de 30 ans ne peuvent pas connaître.
Deuxième
bah, si,
titre.
Du coup, quand même.
Comment ? Ah, toi, tu connais ? Bah oui, toi,
J'étais là, en fait. J'avais 12 ans, mais...
Oui.
Ah, tu t'intéressais. Ça y est, commencé à s'intéresser, quand même.
Bien sûr.
Bah oui, à 12 ans.
Bon, alors, c'est pour toi, Adriana. Ah. Le Pen, Mélenchon, Bayrou, qui arrivera ?
Au bout.
Non, pas au bout. Ah oui, bien, ah, oui.
À chaque fois.
Le Pen, Mélenchon, Bayrou, qui arrivera ?
Bah, au second tour.
Non.
Qui arrivera
Non. Mais pas loin.
Premier ?
Troisième ?
Non, troisième ! Eh oui, troisième ! Oh. Bah, Le Pen, Mélenchon, Bayrou.
Non, mais moi, je ne suis plus habituée. On me dit Le Pen et Mélenchon. Pour moi, c'est second. C'est pas troisième.
Et non.
Malheureusement.
Le Pen, Mélenchon, Bayrou qui arrivera troisième. Qui a fait cette une ?
Oh, oh c'est Le Monde.
Non, c'est un petit titre
petit
sur la une.
Petit titre ?
Ouais.
Sur la une ?
Figaro ? Le Figaro.
Ouais.
Ouais, ah, trois points pour PA, trois points. C'est fort, ça. Donc, on reste sur la même dynamique d'actualité électorale pour ce titre à la une du Figaro. Bon, ils ont eu de la chance puisqu'ils ont vu juste sur le duo sortant. Vous vous rappelez de la troisième place ? C'était qui ?
Mélenchon ?
Et non.
C'était
Le Pen.
Ah oui,
et oui c'était Le Pen. C'était Marine Le Pen avec près de 18% des voix, Mélenchon 11% et Bayrou 9%. Et là aussi, hein, c'était toujours la même époque. Hein. Je ne dirais pas que ça fait rêver non plus, mais bon, bah, c'était une autre époque si on fait un petit parallèle avec 2022. Allez, on change de thématique, on change de journaux, on change de journals. On change de journal, on change de papier. Les frères Bogdanov, terreur des...
Scientifiques.
Ah oui.
Oh, pas loin. J'accorde ce point.
Quoi ?
J'accorde ce point. C'est les frères Bogdanov, terreur des chercheurs.
Ah.
Bah excuse-moi, c'est pas le même mot en fait.
Ah oui, alors toi c'est la gagne.
Oh, man.
Allez.
Oh là là.
Okay. Moi je veux gagner moi.
Vous voulez régler ça, Adriana et Roman ?
Mais non, nous sommes dans des salles séparées, c'est pour mon bien.
C'est toi qui accorde le point.
Ok, bah moi j'accorde le point. Mais ça, j'accorde le point, c'est bon.
C'est toi le boss, vas-y.
Fais ce que tu veux.
J'ai dit, ah bah non, c'était dans mon texte que j'ai pas lu parce que je voulais pas trop formuler.
Tu vas en blind test après, c'est tout.
Bon bah là je le dis, c'est moi qui accorde les points, c'est moi le chef, voilà. Donc, les frères Bogdanov, terreur des chercheurs. Dans quel journal ?
Science Avenir.
Non, bah non. Ça n'a rien à voir avec la science.
D'accord. France.
Non L'Humanité.
Plus. Non plus.
Allez, le Point.
Je t'ai dédé. Plus fort.
L'Obs.
Comment ?
L'Obs.
Non.
Télérama.
Non, un autre.
Néon.
Non, c'est raté. Mais Néon, en 2012, ils n'étaient pas nés.
Fakir. Je sais pas.
Mais non, c'est pas Fakir. Oh, arrêtez.
Society.
Vous m'ennuyez. Voilà, c'était Le Monde. Vice. C'était Le Monde. C'est des quotidiens. Vous sortez des noms d'hebdomadaires ou de mensuels. Là.
C'est que des quotidiens.
La presse.
C'est que
la presse, la une du jour. Oui, bien sûr, c'est des quotidiens. Voilà. Donc, dans cet article, Le Monde revient sur l'attitude des deux frères stars du petit écran vis-à-vis du monde scientifique. En effet, je ne savais pas trop, moi, avant de préparer la chronique, mais les Bogdanov, ils ont fait régner un climat de terreur sur les scientifiques qui osaient critiquer leur travail et donc mettre en un doute sur leur légitimité. Donc, ils ont fait des attaques concernant le droit d'auteur pour un scientifique citant une thèse de Grishka, justement pour la critiquer. Ils ont mis des coups de pression téléphoniques sur un cosmologiste pour que ce dernier retire ses propos sur son malaise ressenti face au travail des frères, etc. etc.
Donc, ah pas oui, d'accord.
Pas joli, cool. Joli, en somme, hein. 10 ans plus tard, les deux présentateurs de Temps X sont décédés, coup sur coup, du Covid, après avoir refusé de se faire vacciner, car ils avaient... Vous saviez ce qu'ils avaient ? C'était quoi l'excuse pour ne pas se vacciner ?
Ils n'y croyaient pas, c'est tout, non ?
Moi, j'ai des blagues, mais je ne vais pas faire de blagues.
C'est la femme d'Igor qui a dit ça sur,
sur BFM. Hein.
Ils ne se sont pas fait vacciner parce qu'ils avaient une phobie des médecins et des médicaments.
Ah.
C'est une...
D'accord.
Ouais.
Ouais.
Mais ah bah non, ça, moi, pour moi, ça va avec ces personnages.
Ça va avec.
Ça ne m'étonne.
Ah oui. Bah, moi, j'avais marqué étonnant, non. Et bah apparemment, pas étonnant. Bon, bah très bien.
C'est frère Bogdanov, tu vois.
Ouais, très bien. Allez, on continue. Bah, moi, je continue. Hein, moi, je m'amuse. Alors, moi, j'ai pas de news. Ah oui, on se marre.
Mais non, mais voilà, tu vois.
Toulouse. Les AMAP en difficulté. Toulouse. Les AMAP en difficulté, faute de
budget.
Clients.
Faute de clients. Faute de clients, tout simplement. Alors là, on est sur un 4 points, 1 point pour Adriana. Quel journal ?
Ouest France !
Sud-Ouest.
C'est très dur. Non, mais ça me fait plaisir de vous faire galérer, mais je ne sais pas si
la
c'est
dépêche.
Intéressant.
Oui,
ça peut durer
si longtemps. C'est la dépêche du midi.
Oh, bah j'ai dit la dépêche.
T'as dit la dépêche ?
Ouais.
Ah, bah t'as un point.
J'ai dit la dépêche.
Voilà.
Sauf si Adriana veut pas que t'aies un point.
On est tous là.
Je coopère.
Bon, ça veut dire quoi, AMAP ?
Je sais ce que c'est.
Oui, non, mais ça veut dire quoi ? Moi, c'est pas la question.
Association.
Oui, merci.
Des maraîchers.
Non, faux.
Agriculteurs.
Non plus.
Paysans.
Agriculture paysanne.
Agriculture paysanne. Bah,
de maintien.
Association pour le maintien de l'agriculture paysanne. C'est un partenariat entre un groupe de consommateurs et consommatrices et une ferme, un agriculteur, une agricultrice, ce que vous voulez. En 2012, quelques années après l'engouement autour des AMAP et face à la multiplication des rayons bio dans les supermarchés, la méconnaissance du fonctionnement et les rumeurs qui courent que les listes sont complètes, les producteurs et productrices, ils galèrent un peu. En fait, il y a des raisons pour lesquelles ils n'entendent pas. Ils n'entendent pas, ça c'est ce que je dis parce que je m'entends trop. Mais, c'est difficile aujourd'hui. Ils galèrent un petit peu à trouver des clients.
Ouais.
Bon, la bonne nouvelle, c'est que la crise a dû être surmontée puisque selon la revue Durable, le nombre d'AMAP est passé de 1000 à 2500 entre 2010 et 2018. Je n'ai pas de chiffres plus récents, malheureusement. C'est plutôt encourageant.
Mmh, ouais. C'est trop bien les AMAP.
Oui, c'est trop bien les AMAP.
Partout. Ouais.
Toi, tu manges des légumes ?
Toi, tu manges de l'AMAP.
C'est quoi ton meilleur légume d'AMAP ?
J'ai découvert tout à l'heure, j'ai découvert une sorte de chou chinois. Je n'avais pas du tout
idée
ce que c'était.
Le choucal.
Mais non, c'était un chou vraiment comme un... Comme une plante qui retombe, c'était très joli, mais je savais pas comment le manger. Donc on découvre des légumes quand on prend de la map. Voilà, des trucs pas très bons des fois. Mais...
Si jamais vous avez le nom de ce chou, n'hésitez pas à nous envoyer un petit commentaire sur RetroBuzz Prune sur Instagram.
Oui.
Évidemment. Allez, on va, on va terminer avec insolite. La justice oblige les gagnants du gros lot à
rembourser.
Non.
Partager.
Partager, bravo.
Allez,
un point.
Oui.
Allez, quel journal dit ça ? Quel journal fait ça ?
Voici.
Non.
Ouest France.
Non.
Bah, insolite.
Insolite.
Télé Z.
Non.
Ah oui, non, c'est un truc.
Journal. Journal.
Ça m'est venu d'un coup.
Télé Z. Le chien. Oh, le chien.
Luma.
Non.
Partage, tout
non,
ça.
Non, mais Luma. Non.
Mais quoi ? C'est le début du collectivisme.
Non.
Figaro encore.
Mais non, aujourd'hui en France. Le tribunal d'Agen avait en effet décidé le 20 avril 2012 que deux ex-amis qui se disputaient un ticket gagnant d'Amigo devraient se partager le pactole d'un million d'euros.
J'ai tout compris. Il y a deux ex-amis qui se partageaient un ticket gagnant d'Amigo et qui n'étaient plus amis et du coup ils ne voulaient pas partager. Et du coup, ils ont dû redevenir amis pour pouvoir partager.
Pas trop parce qu'ils ne sont pas redevenus amis, ils se sont fait un procès. Donc c'est un peu triste parce que c'est deux septuagénaires.
C'était combien?
Comment ?
C'était combien ?
Un million d'euros.
Ah, pardon.
J'ai dit à la fin de la phrase, mais vous ne m'écoutez pas. Donc voilà. Ça, c'est triste, hein. C'est vraiment triste. Donc, c'est une histoire un peu triste parce que deux septuagénaires, amis de 35 ans, qui auraient joué ensemble à un
mais
jeu de la Française des Jeux.
Mais l'argent,
de toute
façon, l'argent, voilà. Tu sais, en fait, ça ne sert à rien d'en avoir. Parce qu'après,
mais les amis, tu sais, les amis, c'est surfait.
Bon, c'est vrai que les amis, on peut s'en refaire.
Au tribunal, il y a sept témoins qui auraient affirmé avoir entendu « Tiens, voilà 20 euros. Si tu gagnes, on partage. Si tu perds, tu ne me devras que 10 euros. »
Ah ouais, c'est le genre de petite phrase que tu dis, tu sais, quand tu vas jouer.
Oui,
ouais.
Donc l'autre,
ça, je dis jamais ça.
Ça se trouve, c'est pas partagé à moitié, moitié en plus.
Ouais. 20 témoins.
Non, 7 témoins,
7,
20 euros.
Ok, pardon.
Parce que,
mais du coup, la cagnotte, c'était combien?
J'ai grossi les chiffres.
Bah, on sait pas. Ah non, mais c'est un million.
Un million d'euros, mais vous.
Non, mais on sait pas comment ils ont partagé. On sait pas comment ils ont partagé.
Je suis là, hein. Mais si, moitié-moitié, c'est deux, moitié-moitié.
Bah, pourquoi? Ça se trouve, c'est 20 et le reste.
Non, moitié-moitié, il y en a deux. En fait, regarde. Tiens, voilà 20 euros. Si tu gagnes, on partage. Si tu perds,
oui.
Tu ne me devras que 10 euros. Mais vous n'écoutez pas la fin de mes phrases.
J'aime pas les problèmes mathématiques.
Bah oui, bon.
C'est pas mon
alors, bon, vous, c'est la thune ou les potes alors du coup
20 euros dans sa poche.
Toi, c'est la thune ou les potes?
Ça dépend quelle pote, en fait.
Oh, tiens, intéressant, ça.
Moi, ça dépend de la thune, si c'est de la
thune. Oh là là, les NFT.
Ouais. Moi, c'est mes potes.
Toi, c'est les potes.
Oh.
Ouais.
Oh. Jeunesse.
Jusqu'au moment où il y aura
toi,
de la thune. Hein? Alors, moi, je vais vous faire écouter la petite chanson que j'ai choisie pour terminer cette chronique. Qu'est-ce que j'ai fait? Bah oui, je vous propose d'écouter le titre numéro 1 du top, du top 50. Bah oui, on se marre comme on peut. Pour conclure, je vous écoute de proposer. Je vous propose d'écouter le titre numéro 1 du top 50 en avril 2012. Un titre pur produit du web 2.0, puisque sa chanteuse a été produite par le label participatif My Major Company. Vous vous souvenez de ça?
Ouais.
Oui.
Ça avait produit quoi d'intéressant? Ça avait produit Grégoire.
Grégoire.
Et oui, ça c'est affreux ça.
Toi plus moi.
Et voilà. Et le titre a été propulsé par une campagne de pub Google Chrome. Et donc on écoute tout de suite Irma avec I Know.
To tell you just a word, I am so sorry to disturb. You may be thinking I'm a fool. I heard you telling you don't care. I heard you thinking loud and clear. Doesn't make me proud of you. I know your time is precious, but give me just a second. I need to straighten things out with you. Not a single day I don't feel the worst because of you. And I know, oh, 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 that it's not a dream. But I saw, oh, 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 yeah, I saw your skin. And I know, oh, 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 you, I saw, oh, oh, oh. I wonder if there's a justice. When I look right into your eye, those feelings never lie. My only weapon is the song, and you won't have to sing alone. This is the story of my life. Oh, oh, oh.
de retour sur Prune 92 FM dans l'émission Rétro Buzz, l'émission qui suit la tendance avec 10 ans de retard. J'ai hâte de ce qui va arriver dans quelques minutes sur cette antenne, et voire même quelques secondes. Est-ce qu'on est toujours aussi nul, zéro des zéros pointés, on ne sait pas, on n'a pas de culture musicale au blind test, hein ? On va le savoir très vite, c'est ça Roman ?
C'est le rétro blind test, j'ai trouvé, c'est Jurassic Park.
Bah, j'espère que tu seras meilleur que dans le jingle.
C'est pas moi. Croire que c'est moi.
Donc, je rappelle le principe pour les auditeurs, auditrices et pour vous, membres de l'équipe, puisque vous êtes un petit peu lent à gagner.
Alors, je vois pas de quoi tu parles.
Ouais. Donc, je rappelle le principe, je vais vous faire deviner trois titres, donc trois chansons. Il faudra trouver, si possible, le nom de l'artiste qui produit cette chanson, enfin qui chante, ou qui, voilà. Et le nom de, ça peut vous aider, le titre voilà, de la chanson.
Gloria Gaynor.
Ces trois titres forment en plus, bah, du coup, le thème de ma chronique. Donc, va falloir à la fin trouver de quoi je parle.
Voilà. J'ai pas compris.
Mais si tu...
Ah, j'ai compris.
Ok, Adriana, t'es prête ?
Je suis prête.
Ok, je compte sur toi. Et bah c'est parti, on commence avec le premier.
Francis Cabrel ?
Non.
Petite Même Marie ? Ah non.
Si c'est bien fini,
Grégoire ?
Non.
Si on se le dit,
ah, c'est Mozart, l'opéra rock ?
Non. Non mais vous êtes sérieux là ?
On le dit en musique.
Stanislas, machin là. Machin Stanislas,
sort tous les prénoms. Pas, mais alors, on m'entend pas ? Si, on m'entend. Non, on m'entend pas parce que je parle
non,
pas.
Non, mais en fait, vous connaissez. C'est sûr. Vous connaissez.
C'est la tortue, Christophe Willem.
Non.
Non.
Adriana.
Ah, je sais pas du tout.
Mais Titanic, c'est Leonardo DiCaprio. Il a dit Titanic ou pas ?
Eh, vous me fatiguez !
Mais
écoutez, est-ce que c'est pas de la merde, tu vois ? Et bah du coup, c'est qui chante ?
Ça va juger comme ça, les gens ! Est-ce que c'est pas de la merde ? J'en sais rien, moi, il a peut-être un petit cœur, ce chanteur.
Bah, certainement, oui.
Il a mis son petit cœur dans cette chanson.
Bien sûr !
Qu'est-ce que ça ?
Non, mais il est connu, on aime bien se moquer de lui, cet artiste-là. Parce
c'est Christophe
que...
May ?
Mais non,
ah bon,
enfin
non.
Ah, oui. Ah, je l'aurais reconnu, celui-là, je pense.
Bah, Emmanuel Mort ?
Non.
Bah on en a dit pas mal, Calogero, oh, c'est Calogero.
Oui, c'est Calogero.
Oh, il me faut une corne de brume. Bien sûr. Bien sûr, c'est Calogero.
Ouais, ah deux bon minutes plus tard, c'est on a failli se le taper en entier quand même. Donc c'était Calogero.
J'aime bien moi.
Mais c'est pas... C'est un bon artiste.
Ouais, musique. Il a fait beaucoup
de musique. Vous, Adriana,
ah, mais...
Et je joue de la guitare électrique. Musique.
J'écoute pas Calogero, mais je croyais que c'était quelqu'un de reconnu.
Bah voilà, bah tu connais FX, bah pourquoi t'as pas... Voilà, bon,
mais parce que je connais pas les
titres. Il faut être plus rapide, c'est ce que j'ai dit.
J'ai
et donc, est-ce qu'on a un titre ou pas de chanson ?
Titanic ?
C'est ça ou quoi ?
Je sais pas.
C'est une bonne réponse.
Ouais ! Parce qu'il a dit Titanic. C'est le seul mot que j'ai entendu. J'ai
c'est
dit Titanic.
C'est une bonne réponse.
Titanic. Allez ! Alors quoi ?
C'est un naufrage.
Deux points. Eh, on fait comme moi, hein, on compte les points.
Deux bravo,
points,
pas deux points.
Voilà. Ouais. Adriana, on continue.
Ouais,
je compte sur toi.
Je suis rentré tôt.
Catherine.
Ce matin.
Philippe Catherine. C'est une bonne réponse, c'est fixe.
Eh oui.
Attends.
Je veux que tu laisses un petit peu plus pour voir le titre. Le
titre. C'est pas les bananes, donc.
Ah oui.
Je suis rentré tôt ce matin.
Tôt ce matin.
Non.
Tout ne fonctionne pas comme ça.
J'ai traversé Paris comme j'aime le faire.
Non.
Depuis des années.
Je ne connais pas celle-là.
Attends le refrain.
C'est une chanson tellement triste.
Bah écoutez, c'est comme ça.
C'est
hein.
Très bien, Philippe, Catherine.
Il y a un sens.
Il y a toujours cette lumière blanche qui m'attend.
La mort.
En plein cœur.
Non.
Il y a si peu de voitures.
Le tunnel.
Ambulance.
Le Near Death Experience.
Alors.
Expérience bon. De mort imminente.
Non.
Je l'ai dit en français, c'est mieux.
Adriana, des idées ? Sinon, je balance.
Ben non.
Non ?
Eh ben, c'est Titanic.
C'est Titanic. Ouais. Ah, le thème, c'est Titanic. Le thème.
C'est plus compliqué. Le thème, on le dit à la fin.
Voilà, le Titanic.
On le dit à la fin.
Ah bon.
Un dernier titre. Là, ça va vous donner un indice en plus quand même si vous reconnaissez.
Ouais, un indice différent.
Donc je compte sur vous. Alors peut-être que vous aurez pas le nom du groupe.
C'est mais, Titanic.
Mais il me faut me donner quelque chose.
Gnawa. Pas Gnawa.
Eh ben,
À quoi ça vous fait référence, étant donné les indices qu'il y a déjà eu avant, du coup?
Bah, c'est Titanic.
Ouais, musique irlandaise.
Oui, Boston, musique irlandaise. Le naufrage du Titanic.
Non. Est-ce que ça vous rappelle un moment?
Oui, bah, quand il danse dans la cale.
Voilà, voilà, merci, c'est ça. Bravo, PA, tu as un point.
C'est ça le titre? Quand non, il danse dans la cale.
Choucal, un choucal.
Choucal.
Le titre.
Le titre.
Le titre, c'est An Irish Party Third Class Original.
Oui, comment tu veux qu'on trouve ça?
Non, mais en fait, je donne le point à PA parce qu'il a trouvé la scène.
Oh bah d'accord, eh bah très bien. Bah, alors, moi quand je dis des scientifiques pour Adriana, il n'y a pas le droit.
Mais non, mais
donc
mais
là, t'as un titre qui est dans la BO du film.
Oui, An Irish Party, Third Class. Donc la soirée irlandaise de troisième classe.
Et on peut savoir de quel artiste, s'il te plaît?
Et bah de Gaelic Storm.
Bah bien sûr.
C'est un groupe de musique celtique américain.
L'orage gaélique.
C'est des potes à Dropkick Murphys?
Peut-être.
Ah,
je
on
ne
sait pas.
Mais
voilà,
c'était pas Dropkick Murphys.
Bah non, c'est pas Dropkick Murphys.
Gaelic Storm. Donc, effectivement, on avait Calogero avec Titanic sur son album sorti en 2020 qui s'appelle Centre-ville. Voilà. On avait Philippe
Catherine. C'est petit de se moquer comme ça.
Philippe Catherine. Mais je donne des informations pour ceux qui ont envie d'écouter ce morceau.
Zone d'activité périurbaine. C'est pas mal, ça aussi comme nom, mais il a préféré Centre-ville. C'est
Philippe Catherine, on a écouté Titanic de son album Robot après tout de 2005, sorti en 2005. Et puis bon, on a écouté Gaelic Storm, donc issu de la BO de Titanic.
Titanic,
c'est quoi mon actualité?
C'est Céline Dion.
Non.
Costa Concordia.
Non. Adriana, c'est quoi mon actu?
Bah, quelque chose avec Titanic.
Oui,
si, moi, je l'ai. Moi je l'ai. Moi,
en fait,
parce
moi
que
aussi
je l'ai
parce qu'on l'a cherché.
Bah,
on l'a
voilà,
vu.
Bah, merci. Dites-le-moi.
Vas-y.
La commémoration du centenaire du naufrage du Titanic en 2012, parce que ça faisait 100 ans qu'il avait naufragé.
C'est ça,
le Titanic,
c'est ça, merci.
En 2012.
Effectivement, c'est le centenaire du naufrage du Titanic, célèbre paquebot britannique qui coula le 15 avril 1912 après avoir heurté un iceberg.
Ah bon,
voilà, c'est tout.
Iceberg,
un iceberg, voilà. Et donc, il y a à la fois effectivement cette commémoration, mais j'ai une double actu.
Mais non.
Bah oui. Et c'est quoi la deuxième actu qui est quand même liée avec
ils ont, ils ont retrouvé quelque chose dans l'épave. Vous
n'avez
pas un délire avec l'épave? Non.
C'était la sortie du film Titanic 2.
Non, mais t'enlèves juste un mot et c'est bon.
Non, en 2012, c'était pas du tout la sortie
rajoutes,
du film Titanic.
Tu rajoutes des mots derrière. Mais
D'accord, bah, tu changes toutes les lettres. Et puis, mais il n'y a pas de souci, Roman, bien sûr. C'était l'élection présidentielle de François Hollande, vois-tu? Et bien, bien sûr, ça marche.
C'était pas ça, c'était la sortie au cinéma de Titanic en 3D en avril 2015.
Eh ben c'est très bien.
Mais double actu.
Eh ben oui,
double actu.
Double actu.
Double actu, même sujet, voilà. Merci.
C'était pas voulu,
ne me remerciez
pas. La sortie du film.
Ouais.
Voilà. Donc
un iceberg de coups.
Donc le même réalisateur, d'accord. Et en fait, il a James Cameron, il a adapté du coup son film qui était sorti en 97, il a réadapté, il a voulu le faire en 3D, mais il a pris son temps parce qu'il a mis des années, il s'est dit j'ai envie de faire un truc cool, j'ai envie de faire un truc bien, et il a prévu le truc pour que ça sorte pile 100 ans après le naufrage et tout ça.
Comme de par hasard.
Comme par hasard, mais comme non, c'est pas un hasard.
Hein.
Voilà.
Oui.
pas du tout. Et donc le succès était à nouveau au rendez-vous, puisqu'il y a eu 300 millions de dollars de recettes mondiales. Voilà.
Bien ça.
Eh ben, c'est pas mal, apparemment.
Ah, c'est bien ça. Ouais.
Et bon, dont un triomphe pour sa sortie en Chine, où le film bat le record du meilleur démarrage pour un film étranger en une semaine avec une recette de 58 millions de dollars. Aux États-Unis, le film marche très bien. Il dépasse même les résultats de Star Wars, l'épisode 1, qui est également ressorti en 3D quelques semaines plus tôt. Voilà, c'était un peu la mode. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait d'autres films aussi en 2012, 2010, tout ça.
C'est qui ressortaient en 3D.
Ouais, ou qui même sortaient tout court. Enfin, des...
Moi, je me posais la question d'ailleurs, qu'est-ce que ça devient ça? Parce que moi, j'ai acheté des lunettes 3D.
Donc,
j'aimerais bien quand même les rentabiliser. Il n'y a plus de séances 3D
au
cinéma.
C'est vrai que ça n'existe plus. Ouais. Non, donc, maintenant, il y a 4DX, un petit peu, dans certaines salles.
Oui, c'est vrai. Ouais, peut-être me mettre là-dedans, moi, dans ce petit siège qui bouge avec de la brume qui me tombe.
Mais t'es pas genre des films en 3D, mais t'as plus besoin de lunettes, juste. C'est ça.
Bah non, mais il y en a plus.
Ça s'appelle la réalité.
les gens qui
n'ont pas besoin de payer un peu.
Qui te parle.
C'est un peu plus chiant.
C'est même plus, ouais.
Ouais. Bonne ambiance.
Ah ouais, bien sûr.
Et donc pour finir, en France, le film dépasse le million d'entrées. Voilà, au bout
bravo.
D'un mois. Ouais.
On peut l'applaudir. Bravo.
Bravo James Cameron. Portant le score cumulé à près de 22 millions de spectateurs donc depuis sa sortie.
Est-ce que James Cameron, avec tous ses millions, il a choisi les millions ou ses potes?
Je pense qu'il a choisi les millions.
Ah oui.
Je sais rien, mais en tout cas, il les a, les millions.
Il a des potes millionnaires. Donc,
Voilà. Sinon, vous avez bien aimé ce film ou pas ? Est-ce que vous l'avez déjà vu ? J'espère quand même.
Je ne l'ai pas vu.
Moi, je
l'ai...
Et non.
Ah ouais.
Oh, ça c'est chaud. Ça, c'est beau, ça. C'est
oh,
chaud.
Non, ça, mais c'est tu beau, loupes.
Mais on connaît explique. Déjà tous l'histoire.
Oui. Oui.
Je sais qu'il y avait de la place. Ah, oui. Voilà. Je sais qu'elle aurait dû lui laisser une place s'il y en avait.
Oui, voilà.
Léo, tu aurais
ça
pu
dans
monter.
Sa piscine. Mm.
Moi, je l'ai vu au cinéma avec mes parents.
Ah oui.
Ouais, c'est un des seuls films que j'ai vu au cinéma avec mes parents. Ouais.
Enfin, 98 ou en France, 97.
Exactement. Et à l'UGC Atlantis, si tu veux tout savoir. Pour remettre un petit peu d'histoire locale. Voilà.
Très bien.
C'est pas en 3D du coup.
Soirée rangée J, je pense.
Ça t'a plu?
J4.
Est-ce que t'en gardes en souvenir? Parce que ça devait être un petit peu long quand même. Je sais pas quel âge t'avais à l'époque. Mais...
Ouais, non, j'avais l'âge, j'étais déjà assez vieux pour aller voir ce genre de film. J'avais 13 ans. Non, c'était. J'en garde un souvenir plutôt cool, ouais. D'aller voir un film grand spectacle avec mes parents. Je crois que le film d'avant qu'on avait été voir, c'était Il y a des jours et des lunes, qui était plutôt chiant, de Lelouch.
Ah oui, d'accord.
Voilà, je m'étais endormi. Voilà. Donc voilà, ça fait, j'ai vu 3 films avec mes parents, dont Titanic.
Donc ça va, c'était pas le pire. Quoi.
C'était pas le pire.
Topéa, tu l'as vu?
Je l'ai vu, pas au cinéma, je l'ai
non,
vu
pas
bien
cinéma.
Après,
ouais.
Très longtemps après, je pense. Mais
c'est
voilà.
Un top ou non, on s'en fout un peu pas d'avis particulier.
Bah, voilà.
Est-ce que tu l'as vu dans un avion?
Écoute,
ah oui,
non,
parce que ça
fait...
passe
non,
le temps
non,
dans l'avion.
Non, sérieux, sur ce film, ce qui me fait délirer, c'est les recherches qu'ils ont faites. Tu vois. En fait, c'est tout ce qui est autour du film qui est marrant. Tu vois, les mecs en sous-marin qui vont aller voir les épaves et tout, et reconstituer. Ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Après, le film...
Toi, t'es un peu fan d'Urbex.
C'est d'Urbex sous-marin.
Ouais.
Et là, c'est du...
Ah ouais, là, c'est un autre niveau, là.
Avec un tuba.
Voilà. Et donc, qui dit Titanic dit forcément, et ben Céline Dion. Voilà, c'est ce que.
Ah, j'ai
oui,
pas forcé.
Mais c'était pas dans
c'était le. C'était pas forcé non plus.
Bon, si. Ah. Écoute, c'est moi qui choisis. Donc... Ouais. C'est obligé. non, mais c'est pas celle-là.
Ah bon, merci.
Et donc, c'est
je
la musique
que
tu l'as
de.
J'irai où tu iras, c'est ça.
Un peu, je sais pas.
Mais non, mais c'est ça. Donc. Pour finir, la musique de James Horner est particulièrement récompensée. Donc voilà, c'est la personne qui a fait la BO. Je vois que vous êtes vraiment ravis de mon choix musical.
Oui,
je suis très
oui,
contente.
Oui.
Il a reçu un Oscar et 2 Golden Globes. Donc pour cette chanson, donc la chanson, je vais la dire, My Heart Will Go On de Céline Dion, qui est un succès mondial encore aujourd'hui. Et puis bah, forcément, bah, on va l'écouter hein, pour notre plus grand plaisir.
Allons-y.
Pour le plaisir des auditeurs et auditrices. C'est parti.
I feel you, that is how Rétrobuzz. On est de retour sur Rétrobuzz.
Vous êtes bien sur Prune 92 FM dans l'émission Rétrobuzz, comme vous l'avez bien compris. On est ensemble jusqu'à 14h et c'est au tour de PA.
Ah oui, c'est moi.
Ça va?
Ouais, c'est moi.
Ça y est, c'est ta voix.
Super.
Rétro-Nantes. Ah bah je connais ça, c'est juste à côté.
Et ouais. Flashback en avril 2012 à Nantes, plus précisément au square d'Avier, place de la Petite Hollande, à quelques dizaines de mètres de la Loire. Une grande tente est plantée, surmontée de plusieurs écriteaux, du va-et-vient, des pancartes un peu partout. Mais de quoi s'agit-il? De quoi s'agit-il? Extrait sonore avec une archive que l'on doit à France 3, Pays de la Loire.
Affaibli. Ils ont perdu plus de 10 kilos chacun. Ces deux agriculteurs sont entrés dans leur troisième semaine de grève de la faim. Ils restent mobilisés et reçoivent régulièrement des soutiens. Deux autres grévistes les ont rejoints dans leur combat. Les élus de la région s'inquiètent de cette action. Dans une lettre commune adressée aux grévistes, Jean-Marc Ayrault, député maire de Nantes, Jacques Auxiette, président du conseil régional, et Philippe Grosvalet, président du conseil général de Loire-Atlantique, leur demandent de cesser de mettre leur santé en danger.
Et voilà, il est donc question d'une grève de la faim, comme vous l'avez compris, parce que j'adore mettre l'ambiance dans cette émission. Mais alors, pour quelle raison en avril 2012 assiste-t-on à une grève de la faim en plein cœur de Nantes? Je vous pose la question, mes chers amis, avec quatre réponses possibles. Réponse 1, pour protester contre la sortie de l'album de M. Pokora à la poursuite du bonheur. Réponse 2, pour protester... Il y a des fans de...
Non, ça suffit déjà.
Voilà, bah c'est son pote, je crois. Réponse 2, pour protester contre la présence de double rond-point dans la cité des Ducs de Bretagne. Réponse 3, pour protester contre l'expropriation d'agriculteurs au nord de Nantes. Et réponse 4, pour protester.
Ah, bravo! Bravo!
Voilà. Ah, voilà. Bah, là, vous n'avez pas écouté.
Bah ouais, bah oh. Si, bah, moi, tout ce que je vois, c'est que c'est la réponse 3, parce que je suis sûr. Parce qu'ils ont parlé d'agriculteurs avant, et j'ai fait le lien parce que tu as dit agriculteur dans ta réponse.
Oui, voilà, c'était le seul qui avait écouté. Bah, tout à fait. Cette grève de la faim qui a duré près d'un mois démarre donc début avril, avec pour objectif de protester contre l'expropriation des paysans, et où ça, à Notre-Dame-des-Landes. Il s'agit d'opposants au projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, porté par le groupe Vinci, qui était censé se substituer à l'aéroport de Nantes-Atlantique. Je ne sais pas si vous vous rappelez un petit peu de ce projet qui a fortement quand même marqué la vie politique et sociale
de Nantes.
Et de la France, d'ailleurs, aussi, à certains moments. Notamment dans les années 2010. Et puis, un projet qui a été abandonné par le premier gouvernement Macron en janvier 2018.
D'accord, mais alors c'était qui ces grévistes en particulier?
On avait deux figures principales, deux agriculteurs. Michel Tarin, qui avait 64 ans à l'époque, quand même. Agriculteur en retraite, propriétaire qui était en train de se faire exproprier et qui a arrêté de s'alimenter le 11 avril. Et puis il est allé jusqu'au bout, lui. Marcel Thébault, l'autre agriculteur qui se trouvait à ses côtés, s'est arrêté en cours de route le 27 avril pour des raisons de santé. Et puis cinq opposants ont pris son relais. On avait aussi deux figures qui se sont joints à ces agriculteurs pour faire la grève de la faim. Françoise Verchère, qui était l'une des figures de la lutte contre le projet d'aéroport. Je passe rapidement. Et de manière plus anecdotique, pendant une nuit, José Bové aussi, qui était alors député européen et qui a fait grève de la faim. Et c'est d'ailleurs lui qu'on écoute toujours sous les caméras de France 3.
Quand je vois des paysans qui font la grève de la faim, ce n'est pas les gens qu'on attend faire la grève de la faim. Donc ça veut dire que pour engager cette action, il a fallu vraiment qu'ils disent qu'il n'y a pas d'autre choix si on veut faire avancer le droit, si on veut réouvrir ce débat qui pour nous est essentiel. Et je crois que vraiment cet acte doit être pris pour ce qu'il est, c'est-à-dire vraiment une demande de réouverture du débat.
Ah, attends, parce qu'il a fait la grève de la faim pendant une nuit?
Ouais.
C'est pas vraiment une grève.
C'est pas beaucoup.
Alors, c'est pas une grève de la faim, c'est un soutien symbolique.
Ah oui.
Un politique, ouais, c'est un jeûne. Mais il était plus.
Mais oui,
mais la nuit, on mange pas.
Et la nuit, on mange pas. Oui, bon, en fait, c'était pour attirer les caméras, pour faire un zoom médiatique. Et on y vient justement, parce qu'il parle de réouvrir le débat. Alors, ça veut dire que ce débat, il ne date pas de l'époque, il ne date pas d'hier. Et ce projet d'aéroport Grand Ouest, d'après vous, il date de quand finalement?
Je sais plus, 60,
à peu près,
72.
Moi, je suis pas du coin, mais ouais, apparemment, j'ai entendu que c'était il y a...
C'est vieux.
Moi, je suis jeune, donc je sais pas.
Il y a 50 ans.
Tout ce qu'il y avait avant moi, je connais pas.
Alors.
C'est ça 60.
Ouais, c'est les années 60, tout à fait. Et à l'époque, dans les années 60, on avait cette ambition de construire un grand aéroport tourné vers les Amériques. C'était vraiment l'idée de faire un truc à l'ouest de la France qui part comme ça, tu vois. Donc en 65, on parle du site de Notre-Dame-des-Landes comme étant déjà idéal pour cette réalisation. En 74, je vous la fais rapide, hein, on crée la zone d'aménagement différé, la fameuse ZAD, qui deviendra la zone à défendre plus tard dans la bouche des opposants et qui permet, cette zone d'aménagement différé, qui a permis au département d'acquérir progressivement des terres au fil des années. Dans les années 80, on oublie un petit peu le projet, en tout cas il est un peu en sommeil, et puis il est réactivé sous le gouvernement Jospin dans les années 2000, avec tout un processus qui aboutit à une déclaration d'utilité publique en 2008. Ça, c'est super important, la déclaration d'utilité publique, c'est pas facile à dire, mais parce que ça permet à l'État et à Vinci d'aller voir les agriculteurs et de leur dire « Bon, bah mec, on va faire un aéroport chez toi. Donc, en gros, soit on négocie, soit on va t'exproprier. » Et on est pile à ce moment-là, en fait, avec cette histoire de grève de la faim, parce que, je sais plus, en fait, où j'en suis dans mon...
parce que c'est pas bien, c'est pas très bien.
Ils n'arrivent pas, ils vont pas
voilà,
négocier.
Donc, ils vont voir les agriculteurs avec cette déclaration d'utilité publique. Alors, certains acceptent, d'autres pas. Et l'opposition, finalement, commence à se mobiliser, à s'organiser. On a plusieurs collectifs, notamment l'ACIPA. Je ne sais plus l'acronyme de l'ACIPA, mais en gros, c'est l'association la plus importante qui va fédérer un petit peu les opposants au projet d'aéroport. Et le collectif aussi, SETPA. Ils ont tous des noms comme ça. ACIPA, SETPA, il y avait l'ADEPA aussi. Ça finit tous par projet d'aéroport, contre le projet d'aéroport. Voilà, tout ça pour dire que nos deux agriculteurs, avec leur grève de la faim, ils s'inscrivent pleinement dans cette séquence-là. Ce qu'ils réclament, c'est d'arrêter les expropriations, les expulsions, le temps que les recours juridiques qu'ils ont essayé de mettre en place puissent au moins arriver à leur terme.
Et alors, est-ce que ça a marché ?
Alors, ben oui et non. Ils obtiennent effectivement la suspension des expropriations au moment où ils font grève, hein, cette grève de la faim qui va s'arrêter donc début mai, sauf erreur de ma part. Mais on connaît la suite. Et la suite, c'est la fameuse opération César qui arrive quelques mois après. L'État va déclencher les conflits avec les opposants de Notre-Dame-des-Landes. Et ça va durer plusieurs mois, ça va durer plusieurs années, on connaît un petit peu l'histoire. Et en fait, à partir de 2012, l'occupation de la ZAD, elle est de plus en plus forte et l'opposition, elle est de plus en plus multiple dans ses composantes. En fait, on passe d'un conflit qui est dans un premier temps qui concerne surtout les agriculteurs et les gens qui habitent là-bas vers un conflit pour un choix de société. Et cette grève, elle arrive pile à ce moment-là. Elle n'arrive pas n'importe quand, puisque on est en avril 2012, on est en pleine campagne électorale pour les présidentielles aussi à l'époque. Et oui. Et donc avec un second tour qui oppose Sarko et Hollande. Et qui est-ce qui est pressenti pour être le Premier ministre d'Hollande en cas de victoire d'Hollande ?
Jean-Marc Ayrault.
Oui, député maire de Nantes et initiateur de la réactivation du projet. Donc une séquence qui est très 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 fortement politique.
Alors, est-ce qu'on en parle toujours en 2022 de ce projet ?
Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, Macron a abandonné le projet. Ouais, donc je le redis. En 2018, donc c'est clairement une victoire pour les opposants. Donc aujourd'hui, on parle plus trop de Notre-Dame-des-Landes. Par contre, on parle toujours des riverains de l'actuel aéroport qui se situe au sud de Nantes. Parce que l'un des arguments des défenseurs du projet de l'aéroport, c'était de dire que l'actuel aéroport était saturé, trop petit, et surtout source de nuisances pour les riverains, notamment du côté de Rezé ou de Bouguenais, ces communes qui se situent au sud de Nantes. Le nouvel aéroport ne se faisant pas, les riverains ont continué de manière très légitime à se mobiliser. Et donc, le 8 avril 2022, là, il y a quelques jours, au moment où j'écrivais cette chronique, est entrée en vigueur une nouvelle réglementation, à savoir un couvre-feu. Plus aucun avion n'est autorisé à décoller ou à atterrir, sauf cas de force majeure, bien sûr, entre minuit et 6 heures du mat à Nantes. Je ne sais pas si vous le saviez.
Ah ben oui, j'ai entendu ça.
Voilà. On est loin, très très loin des ambitions de l'aéroport vers les Amériques.
C'est bon, parce qu'à chaque fois que tu parles d'un aéroport, j'ai l'impression que c'est l'aéroport qui part.
Ouais.
Mais en fait, c'est les avions qui partent.
Mais
pas
tu connais, vous connaissez, là, mais... et les auditeurs de Retrobus connaissent mon amour pour les avions.
C'est vrai, tu parles beaucoup d'avions.
Oui, tout à fait, j'adore les avions.
Moi, je ne savais pas.
Voilà, j'ai fini ma chronique.
Mais bravo, Péa, d'avoir été jusqu'au bout.
C'est très très bien.
Je sais pas si c'est mignon ou si c'est...
Moi, je le prends bien. Je le prends bien. Et d'ailleurs, je le prends tellement bien que je vais vous laisser en musique avec la Parisienne Libérée. Ça vous parle, la Parisienne Libérée ?
Non, mais est-ce qu'elle a un accent marseillais ?
Eh ben, elle a un accent de Parisienne Libérée, tu vas voir. Autrice de chansons d'actualité qui œuvre notamment du côté de Mediapart et qui avait fait une chanson d'actualité, satirique, mais d'actualité quand même, sur l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes.
Le projet ambitieux dans les années 60 d'un Concorde radieux d'une industrie qui chante. Le projet innovant des années 70, il faut dorénavant que chacun atterrisse. Le projet oublié des années 80, le pétrole a flambé, tout ça ne sert plus à rien. Le 20e siècle est mort, plus personne ne demande le fol aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Quand soudain par magie le monstre est ranimé, le grand hub a surgi prêt à tout bétonner. Y a du terrain à prendre et de l'argent à gagner. Adieu les salamandres, le bocage est fermé. Le kérosène est cher, promis, ce sera le dernier. Mais comme pour le PR, pas question de renoncer. On sait bien qu'on a tort, mais il faut qu'on défende le fol aéroport de Notre-Dame-des-Landes.
De manière à ce qu'il n'y ait aucun incident et que la sécurité puisse être assurée, les forces de l'ordre sont présentes en nombre suffisant.
Il y a juste quelques centaines de caïds surarmés. Il y a juste un hélico et un petit peu de fumée. Deux lignes de camions blancs, une ronde de camions bleus. Et partout dans les champs, des vaches qui font pas meuh. Et partout dans les champs, des vaches qui font pas meuh. L'a fallu enterrer quelques tritons crêtés. Mais pour monsieur le préfet, tout s'est très bien passé. Une action héroïque en milieu difficile. Des noms énigmatiques, une poésie hostile. Le limimbou, le tertre, le sabot, la vacherie. La saulce, les planchettes, bel air, le préfailli. L'isolette, la gaieté, le phare, la chèvrerie. La belliche, les rosiers, la cabane, la sécherie. Y a juste quelques centaines de caïds surarmés. Y a juste un hélico et un petit peu de fumée. Deux lignes de camions blancs, une ronde de camions bleus. Et partout dans les champs, des vaches qui font pas meuh. Et partout dans les champs, des vaches qui font pas meuh. C'est une concertation d'un genre déconcertant. Et pour la transition, ça transite bizarrement. Oignon contre lacrymo, chacun son style de botte. Jusqu'au dernier poireau, jusqu'à l'ultime carotte. Tout est mondialisé cependant jusqu'ici. Y'a pas de curé nantais en vente au duty free. Non, tout n'est pas perdu, c'est pas dit qu'on se rende au fol aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Y'a juste quelques centaines de caïds surarmés. Y'a juste un hélico et un petit peu de fumée. Deux lignes de camions blancs, une ronde de camions bleus. Et partout dans les champs, des vaches qui font pas meuh. Et partout dans les champs, des vaches qui font pas meuh.
On est de retour sur Prune 92 FM dans l'émission Rétro Buzz, l'émission qui suit la tendance avec 10 ans de retard. Alors, t'as vu ce jingle un peu ? Adriana, on va faire quoi en Russie ?
Méga, hyper, super, Rétro Buzz !
Ben ouais, ben oui, on va faire. On va faire des jingles, c'est ça qu'on va faire.
On va faire des jingles et on va parler, pas de Poutine, hein, parce qu'en 1912, il n'était pas là.
Ah.
Et voilà. Et du coup, je vais vous proposer d'aller en Russie. Donc, c'était déjà le sujet de Roman le mois dernier. Mais moi, je vais parler d'un autre siècle, donc c'est un petit peu différent quand même. Donc, je vous propose un cours un peu magistral aujourd'hui, je suis désolée. Mais c'est sur un événement historique majeur qui n'est pas très connu. Et qui a eu lieu en Sibérie. Alors la Sibérie, c'est la partie asiatique de la Russie, donc c'est la partie qui est à l'est du pays, je ne sais pas si vous étiez au courant. Et la Sibérie, ça représente 77% de la Russie, donc c'est quand même une grosse majorité de 13 millions de kilomètres carrés. Pour vous donner une petite idée, ça équivaut à plus de 123 000 fois la superficie de Paris. Et oui, j'ai cherché ça de moi-même. J'ai fait des recherches. La Sibérie est très peu peuplée, puisqu'on estime que c'est que 29% de la population russe qui réside en Russie, en Sibérie. Et je pense que vous pouvez comprendre pourquoi. C'est parce qu'il fait très froid. Donc c'est lié aux conditions climatiques qui sont absolument terribles et difficilement supportables. Pourtant, c'est une zone... Et oui, il y a des petits bruitages. Pourtant, c'est une zone peuplée de ressources, notamment de métaux précieux, tels que l'or. Et donc, quand il y a de l'or, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, il y a des mines.
Allez, oh, des bruits
de mines. Il y a des petits bruits de pioche. Donc, il y a des mines qui s'y sont établies afin d'extraire ces ressources. Et justement, au début du mois de mars 1912, vont éclater des mouvements de grève chez les travailleurs de la société des mines d'or de l'ALENA. Alors là, c'est une petite pause dans ce récit, pour vous, mes chers rétrobusistes, enfin, et pour tout le monde qui veut participer, mais je ne peux entendre que les rétrobusistes. Donc, petite devinette, l'ALENA, c'est le nom d'un fleuve sibérien qui a donné son surnom à un grand personnage historique russe. Est-ce que vous pouvez deviner qui ?
Lénine.
Bah oui, c'était très rapide.
Bah excuse-moi d'écouter. Oh là, j'écoute la question, bah quoi ? Quelque chose semblant de...
J'écoute la question, j'ai juste le temps que ça... de réfléchir.
Bah, je vais pas faire semblant d'être bête. Hein. Écoute, voilà, moi je veux gagner des points.
Il y a c'était... beaucoup d'ambiance de rivalité ce soir.
Elle a jamais dit
soir.
Qu'il y a des points.
Bien sûr, s'il y a des points.
Non, pas dans ma chronique.
Ah,
pas
voilà.
Chronique sans points.
Voilà, sans points.
Pas de compétition.
Donc c'est Vladimir Ilitch Ulyanov, dit Lénine, qui a obtenu ce surnom, après avoir été déporté près du fleuve de l'ALENA entre 1897 et 1900. Lénine, ça veut donc dire l'homme de l'ALENA.
Ah.
Pour revenir aux travailleurs des mines, en fait, il faut bien comprendre que c'est une agrégation d'éléments qui va conduire à une très grande grève. En février 1912, on a déjà servi aux mineurs de la viande de cheval. Alors, il n'y a pas eu de scandale Findus, mais c'est que la viande de cheval, je ne sais pas trop pourquoi, je n'ai pas pu trouver, mais apparemment, ce n'était pas une viande très habituellement mangée en Russie, et c'était peut-être même un peu mal vu de manger du cheval. Donc, ils sont allés se plaindre à la direction, mais la direction de la compagnie a fait la sourde oreille, leur a dit que c'était pas très important, après tout, de manger de la viande de cheval, et qu'on changerait leurs conditions plus tard, quoi. Et du coup, ils se sont soulevés pour demander, entre autres, une meilleure alimentation, mais aussi de meilleures conditions de travail, c'est-à-dire des journées de 8 heures, des augmentations de salaire. Voilà, un petit peu de respect, quoi. Et encore, quand je dis se soulever, j'exagère un petit peu parce que la grève est plutôt pacifiste. Les mineurs se contentent de ne plus aller à la mine. Et même s'il y a eu plusieurs interprétations, notamment politiques, les revendications sont plutôt purement économiques, en fait. Pour preuve, le procureur de la région avait décidé de ne pas accabler les récrivistes et de ne pas leur attribuer de charges criminelles au motif que leurs revendications ne contenaient aucune propagande socialiste. Après, on peut quand même préciser que les grèves pouvaient s'organiser autour de personnes plus politisées que les travailleurs, et donc ces personnes avaient généralement une expérience dans des mouvements radicaux, comme des anarchistes par exemple, donc là il y a quand même une petite valeur politique. La grève se propage d'une mine à l'autre, et finit par regrouper près de 6000 mineurs. Donc c'est énorme. Pour réprimer le mouvement, c'est l'armée qui est envoyée. Là, vous avez les pas des soldats.
Ouais, on y est.
Et le 17 avril, du coup, 1912, alors qu'environ 2500 travailleurs vont se plaindre au bureau du procureur, ils tombent nez à nez avec les soldats qui tirent dans la masse. Trois coups de feu. Il y en a eu plus, puisqu'il y a eu entre 150 et 200 morts et 200 blessés. C'est un épisode qu'on va appeler le massacre de l'ALENA. Ce massacre va marquer le début d'un scandale d'État, puisqu'il ne va pas laisser l'opinion publique indifférente. C'est même le sujet dont tout le monde parle en Russie. Pour vous dire, on en parle plus que le naufrage du Titanic. Parce que oui, là, en 1912, deux jours avant, il y a eu le naufrage du Titanic, dont on a parlé juste avant. L'opinion publique soutient les grévistes et manifeste aux quatre coins du pays, même à l'extérieur des frontières, et ce, quelle que soit la classe sociale. Donc c'est vraiment un mouvement super important. Et de nombreux mineurs vont définitivement quitter les mines, du coup, en réaction. L'affaire est en fait révélatrice des conditions de travail ouvrières et permet à l'opposition politique de renforcer son discours et d'accuser le gouvernement de ne pas avoir protégé les travailleurs. Finalement, sur demande populaire, une commission d'enquête sur les circonstances du massacre de l'ALENA est ouverte. Elle est présidée par le futur second du gouvernement provisoire de 1917. C'est Kerensky ! Je pense que personne ne pouvait deviner, enfin, du coup, à part si vous êtes historien, quoi. L'année suivante le massacre, pardon, donc en 1913, Staline va écrire un article en mémoire de cet événement dans lequel il évoque, lui, le chiffre de 500 morts. Alors, il est probable qu'il ait gonflé les chiffres, ou il est aussi probable que, à l'époque, les informations n'aient pas assez bien circulé pour qu'on sache exactement le nombre de morts. Il écrit, et là je le cite, « Une nouvelle page de l'histoire russe se tourne, preuve que cet événement a marqué un tournant majeur dans la contestation du gouvernement russe et dans l'indignation face aux conditions de travail ouvrières. Si cette histoire vous intéresse, eh bien, vous avez la capacité de lire en anglais, je vous conseille de lire Les mines d'or de l'ALENA et la crise de l'État tsariste de l'historien Michael Mélenchon. » Et ça ressemble un peu à Mélenchon, mais c'est pas Mélenchon. Je me suis basée sur ce qu'il a écrit pour cette petite chronique. Voilà.
Merci.
Trop bien. Merci Adriana, pour ce voyage temporel, géographique.
C'est vrai. Du coup, je vous propose d'écouter une petite chanson qui s'appelle Working Man, qui a été faite alors en l'honneur de d'autres mineurs, mais voilà, c'est pour la cause des travailleurs qui travaillent dans les mines.
It's a working man I am, and I've been down underground, and I swear to God, if I ever see the sun, or for any length of time, I can hold it in my mind. I never again will go down underground. At the age of 16 years, with my father close to tears, as he vowed never again to send his son to the dark recess of the mines, where you age before your time, and the cold dust lies heavy on your lungs. It's a working man I am, and I've been down. I swear to God, if I ever see the sun, or for any.
On arrive donc à la fin de cette émission. On espère que cette heure consacrée à quelques buzz d'avril 2012 vous aura fait plaisir. Avant de se quitter, on va quand même vous dire à quoi vous avez échappé. On aurait pu vous parler de cette manifestation de policiers sur les Champs-Élysées, mais bon, ça va aller, on a vraiment une autre dose de discours sécuritaire de droite pour ne pas en rajouter une couche.
On aurait pu vous parler de la sortie au cinéma du premier volet d'Hunger Games, mais en fait j'ai loupé la date, c'était en mars. Voilà. J'ai loupé.
On aurait pu parler de cette tentative désespérée avec cette opération de com du Modem qui lasse de constater que leur candidat à la présidentielle, Bayrou, était dans les choux. Ils ont tenté de lancer le hashtag Bayrou Day le 7 avril. Ah. Et forcé de constater qu'in fine, on se retrouve avec Bayrou Dead.
Oh. On aurait pu vous parler de la mort de François Bignot, cofondateur du Front National, mais c'est trop paradoxal et déprimant d'en parler à un moment où le parti fait son meilleur score au présidentiel. Ah.
Et on aurait pu vous parler de cet article de BFM TV que j'ai trouvé qui s'intitule « Bayrou pourrait sûrement être Premier ministre », dit Juppé. Mais en fait, ça n'est jamais arrivé et on ne sait plus qui est ni Bayrou ni Juppé.
Ah ouais.
Donc voilà.
Dead. On aurait pu vous parler de cette indemnité payée par les États-Unis à 41 tribus indiennes. Le pays a dû leur verser $1 milliard, un montant censé résoudre le litige historique de plusieurs siècles. Bref, une blague.
On aurait pu vous parler de Brigitte, 64 ans, qui vient de commencer sa longue carrière d'assesseuse dans le Finistère. Mais Ouest-France en a vraiment déjà fait un article.
Ouais, trop bien. Voilà, on aurait pu vous parler de tout ça, mais on va pas le faire. On a déjà suffisamment dit. On vous invite évidemment à nous suivre sur le compte Insta de l'émission qui s'appelle Rétro Buzz Prune Tout Attaché pour découvrir les coulisses de l'émission, des teasers, des stories, des infos, des bien sûr l'accès au podcast chaque mois qui va se retrouver très vite sur le site de Prune, www.prune.net. Voilà, comme ça c'est dit. Et on vous laisse tout de suite avec la playlist de Prune et rendez-vous le mois prochain.
Salut.
Salut.